avec l'use, être l'être. Ils rompent avec l'institution, ils rompent avec tout ce qui est l'oppression. Et Rousseau, par exemple, concernait le clergé, il n'est pas tellement quelqu'un que ça, finalement. Mais je termine peut-être par le culte de l'être suprême. Il y avait un vers animé, le culte de l'être suprême, où l'on dit chassons le valet, mais conservons le maître. Qui est très le derrière, finalement. Ils attaquent plutôt, finalement, l'institution, ils attaquent plutôt les systèmes d'oppression que dégage le clergé, plutôt que la foi même. Sauf, bien sûr, des gens, même Diderot, certains sont quand même complètement athées à ce moment. Donc, si je pouvais préciser un peu, vous avez des questions, justement, est-ce la foi, est-ce que l'institution de l'Église qui est
moins.
C'était essentiellement du 17e que je parlais, du Dieu de philosophe au 17e. Sur le 18e, je sais que tu as énormément de choses à nous raconter, et à la limite, ça fait la transition avec l'intervention que tu vas faire à la rentrée des vacances de février, puisque il semble bien que c'est tout ça que tu viens de parler. Donc oui, moi je parlais essentiellement du rationalisme du 17e. Alors après, au 18e, c'est vraiment un siècle où ça va partir dans tous les sens, parce qu'il va y avoir toutes les formes de déisme qui sont effectivement une religion naturelle, c'est-à-dire qui rejettent finalement toute forme d'institution religieuse, sans compter effectivement le matérialisme qui va complètement rejeter l'idée de Dieu. Alors justement, pour les différents déismes, il y a justement un principe qu'on maintient, qui est, puisque finalement la preuve de l'existence de Dieu dans le déisme, c'est que l'ordre et l'harmonie de l'univers ne peuvent pas être le résultat du hasard, mais qu'il y a un créateur, il y a une intelligence qui a ordonné finalement le monde, et qui est en même temps, d'ailleurs, chez Rousseau, l'instinct divin, c'est la voix que la nature a gravée dans notre cœur, hein, c'est l'instinct divin, c'est la conscience morale, etc. Alors justement, on pourrait dire que dans ce déisme du 18e, le dieu des philosophes se trouve finalement réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire qu'on voit effectivement à quoi il sert ce dieu des philosophes, qui n'a pas grand-chose justement avec le dieu, avec la foi dans le dieu de l'Église, et qui se détache des rites, etc. Et ça prépare quand même le terrain à Kant, qui va dire justement, je ne peux pas prouver qui Dieu est, mais je dois faire comme si, parce que j'ai besoin justement... de pouvoir penser le monde comme un système organisé et d'avoir, alors non pas un fondement pour le moral, mais une espérance. Donc, puisque ça, c'est des choses aussi qu'on pourra voir, c'est que chez Kant, le fondement de la morale n'est pas technologique. Donc, il y a une évolution là, au 18e, hein, qui est en fait, encore une fois, très compliquée. C'est-à-dire, compliquée à partir du moment où c'est très difficile de résumer des grands pans comme ça d'histoire alors qu'il y a des attitudes, des prises de position par définition toujours très très diverses. C'est ça qui me gêne aussi un petit peu par rapport au Moyen-Âge. C'est pas un propos un petit peu tortueux, un peu, mais parce que bon, on peut couper à grand schématiquement finalement. Mais ce que j'essayais quand même de montrer, c'est que le rapport entre la raison et la foi, il est beaucoup plus compliqué que justement ce que les Lumières ont voulu laisser croire, c'est-à-dire une foi obscurantiste, une raison qui détient la lumière, que notre histoire, elle est donc à la fois, elle a une origine à la fois rationaliste et chrétienne, que les deux se sont côtoyés, se sont construits mutuellement, et que finalement... la raison, y compris dans le rationalisme et dans le positivisme, repose sur un certain nombre de présupposés non questionnés qui finalement qu'elle hérite aussi finalement de la foi et d'une tradition chrétienne. Mais finalement, là, ça me conduit un peu vers la conclusion que j'avais la dernière fois, c'est-à-dire une raison qui voudrait justement remettre en question, s'émanciper complètement de la foi, c'est une raison qui est nécessairement toujours questionnement, toujours critique, critique d'elle-même. C'est donc, bon, on se retrouve justement avec une certaine pratique de la pensée qu'on a par exemple chez Nietzsche, qu'on aura aussi chez d'autres philosophes au 19e et au 20e. Et je parlais d'Anna Arendt la dernière fois, on retrouve aussi cette idée finalement, une pratique de la pensée qui ne débouche pas sur une connaissance, mais qui au contraire est ce mouvement de réflexion toujours renouvelé finalement, de méfiance. Hein, finalement, dès que la foi se réinstalle, on a une raison qui a son tour dogmatisme finalement. Maintenant, on a un micro qui marche.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu avant, c'est-à-dire qu'on a parlé du christianisme et de la Grèce, et avant, il y avait, me semble-t-il, de manière historique, l'Ancien Testament, qui fondait à la fois la foi, mais aussi, me semble-t-il, la raison. Parce que dans ce qui est exprimé dans ces écritures-là, qui me semble-t-il reste quand même assez ancienne, on peut difficilement distinguer le principe du Dieu unique de l'application qui peut en être faite au niveau de la civilisation, au niveau des sociétés. Et donc là, il me semble que la foi et la raison, à ce moment-là de l'expression du principe divin et de la cohérence de la société, se trouvent tout à fait évidentes pour moi.
J'ai commencé tout à l'heure justement en parlant de la façon dont finalement la religion a récupéré finalement le logos, hein, et en disant après coup que toutes les manifestations finalement de la raison chez les Grecs ne pouvaient avoir lieu que parce que on est tous finalement dans le logos divin. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il y a là une projection. Et ça renvoie un petit peu au travail que j'ai fait la semaine dernière, justement, où il s'agissait justement de l'émergence de la rationalité en Grèce. Il ne s'agissait pas de parler d'un miracle grec, puisqu'on peut essayer de comprendre quelles sont les conditions d'émergence de la rationalité. Il y a là quand même une forme de discours inédit qui apparaît. Et nous on est dans ce discours-là. Donc on a tendance à interpréter après coup tous les éléments de notre histoire à travers justement le crible de cette raison. Donc que le Dieu du Testament soit principe, par exemple, de l'organisation sociale, on peut le dire aussi, on peut dire ça finalement de toute religion, y compris de l'animisme. Que la religion, elle énonce un certain nombre de règles qui permettent d'unifier à la fois le monde humain et la société, en induisant un certain nombre de comportements, de normes, de repères, en installant un certain nombre de repères. Ce qui a fait dire aussi que dans la pensée, qu'on appelle primitive, avec toujours des guillemets de précaution, il y aurait une raison, mais pas encore complètement développée. C'est-à-dire, le risque, c'est toujours de faire une lecture après coup et de retrouver la raison partout et de faire finalement un schéma évolutif des sociétés humaines en fonction du degré de révélation de la raison qu'elle posséderait. Je n'ai pas du tout le dernier mot sur une question qui n'est pas facile. Il y a peut-être d'autres personnes dans la salle qui ont des choses à dire sur la question. pensez-vous? Je vous ai anesthésié.
Imaginez que depuis le début de l'humanité, il y a eu des hommes qui étaient athées. Enfin, j'arrive peut-être pas à préciser exactement ce que je voudrais dire. Mais là, on est toujours dans une réflexion sur l'arrivée du logos, la foi, l'influence de l'un et de l'autre. Mais est-ce que tout au long est-ce que l'athéisme, ça ne s'appelait pas comme ça, mais est-ce qu'il y a des gens qui, de toute éternité, depuis très longtemps, ont pensé que, bon, les dieux, il n'y en avait peut-être pas, avant l'avènement de la raison, je dirais. Je sais pas si
justement, je ne sais pas si avant l'avènement de la raison, la question était posée de cette façon-là, puisque c'était aussi un petit peu le travail que j'ai essayé de faire la semaine dernière. La croyance, elle ne se pense comme croyance qu'après l'avènement de la raison, puisqu'avant, c'est pas en opposition à la raison que la croyance se pense comme croyance. D'ailleurs, carrément, dans la modernité, par exemple avec Pascal, la croyance va se revendiquer comme telle, et on a justement le credo cuia absurdum chez Pascal, je pense parce que c'est absurde, et que ça dépasse complètement la raison, que la raison ne peut pas atteindre justement le contenu de la foi. On ne peut pas démontrer rationnellement l'existence de Dieu, donc il s'oppose à la théologie. Hein. Et il revendique finalement le caractère absurde et irrationnel de la foi. Donc en fait, on avait un petit peu travaillé sur cette idée que tant que la raison n'a pas émergé, finalement, c'est la croyance qui constitue, l'univers finalement des hommes. Et cette croyance est réalité. Ce que d'une certaine façon Platon critique dans l'île de la caverne, en disant les hommes de la caverne prennent justement ce monde de croyances pour la réalité même et donc ils sont dans l'illusion. Donc effectivement, peut-être que pour qu'une forme d'athéisme, de rupture avec justement la tradition et les croyances apparaissent, il faut peut-être qu'on soit justement dans un cadre rationnel. Et, alors la question qu'on peut poser après, c'est est-ce qu'on ne peut pas croire hein, est-ce que la raison elle-même peut échapper finalement à un impensé qui lui permet de fonctionner, sur lequel elle se fonde et finalement, si la philosophie consiste à douter, est-ce qu'un doute radical est possible jusqu'à quel point c'est ce qu'a essayé Descartes c'est aussi d'une certaine manière ce que fait Kant, c'est aussi ce qu'on retrouve chez Husserl, et hein, il s'agit justement de revenir à un état qui serait antérieur à la raison pour justement voir d'où la raison elle-même émerge. Hein. Mais bon, en même temps, il y a là quelque chose qui frise l'impossible. C'est-à-dire qu'on est pris à notre insu, à notre corps défendant, dans un réseau de croyances, dans un tissu de croyances. Hein. Donc finalement, la question c'est est-ce qu'il y a des hommes qui ne croient pas. Mais ça suppose justement une raison qui est toujours en éveil finalement, et qui vient se déranger elle-même dès qu'elle a trouvé une position un petit peu confortable pour s'installer. À mon sens, le travail de la philosophie aujourd'hui.
Je ne sais pas si c'est à propos, mais je me pose la question, qu'en est-il de la foi au XXe, du rapport entre la foi et la raison au XXe siècle? Au XXe, mais en fait, au XXIe, il est trop petit, au XXe siècle, quoi. Je ne sais pas si c'est bien de...
C'est pas facile d'y répondre comme ça. En ce moment, on est en plein dedans, hein, avec le discours de Ratisbonne. Du pape. C'est ça, hein, c'est Ratisbonne, tu ne veux pas. Moi, j'ai été frappée en le lisant quel point le pape, en fait, dans son discours, récupère complètement la tradition philosophique et l'interprète dans le sens de la foi chrétienne. Et avec une... En le lisant, je me dis, mais c'est un grand sophiste. Parce que, finalement, quelle que soit la source qu'il prenne, il l'interprète toujours dans le sens de la foi. Il y a aussi une chose qu'il y avait dans ce discours qui a quand même fait parler et couler beaucoup d'encre aussi, c'est justement cette idée que la foi chrétienne, que le christianisme serait une religion qui en fait est capable de se mettre en accord avec la raison, qui a toujours été, qui s'est toujours construit au voisinage de la raison, chose qu'il dénie à l'islam, à la religion musulmane. Puisque bon, ça avait fait scandale à l'époque, il a dit que l'islam était violent et qu'il était incapable de se concilier en fait avec la raison. Historiquement, c'est une contre-vérité. Puisque les Arabes, avant nous, et dès la naissance de l'islam, ont cherché à mettre en accord la foi et la raison. Et ont même été, comme j'ai essayé de le dire très rapidement, très tolérants à l'égard de la libre pensée à une époque où, en Europe, on avait fermé toutes les écoles de grammaire et de philosophie. Nous sommes même chez une école de philosophie, on enseignait les sciences du langage, la grammaire, la logique.
Bon, je voudrais vous dire merci pour ce que vous êtes en train de dire là maintenant. Ben parce que, et puisque vous avez dit tout à l'heure aussi en disant que les musulmans étaient appelés aussi les gentils, c'est ça, je vous disais tout à l'heure. Donc ça, je trouve ça très intéressant, un peu original même. Après, moi, ce qui me semble intéressant aussi à relever, c'est que ben, je crois qu'on a tendance à oublier largement de quelle manière tout le monde arabo-musulman a participé à la pensée occidentale aujourd'hui. Et je crois que si beaucoup de jeunes, justement, des familles chrétiennes, là, s'ils pouvaient aussi entendre ça, ben je crois que ça leur ferait beaucoup de bien. Voilà. Je crois que c'est tout. Simplement vous dire, mais oui, ça fait effectivement vraiment plaisir qu'on attende ça, enfin, quoi, quelque part. Merci.
Je pourrais vous mettre des éléments de bibliographie, justement sur le site, pour sur les gens qui en parlent actuellement de tout ça. Hein. Et par rapport au plaisir que ça peut vous faire, ça me fait penser à une classe de terminale où on doit avoir 6 ou 7 élèves maghrébins, maghrébines surtout, des jeunes filles, qui sont effectivement, quand j'ai eu l'occasion d'en parler de manière peut-être un petit peu plus simple en classe de terminale, mais à qui ça fait aussi très très plaisir, parce qu'il y a une espèce de déni justement de tout cet apport et d'une histoire qu'on a construite aussi ensemble. Alors, souvent quand on dit bon, la foi et la raison se sont construites l'une contre l'autre, c'est vrai aussi que le christianisme et la religion musulmane se sont construits l'un contre l'autre dans les deux sens différents aussi, c'est-à-dire aussi dans l'opposition avec les chrétiens qui voulaient convertir les musulmans, etc. Mais alors justement, il y a un auteur qui lui c'est un sociologue essayiste en France hein, qui est musulman, qui s'appelle Malek Chebel, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'islam et la raison », où il retrace cette histoire de manière extrêmement intéressante et extrêmement vivante. Sinon, dans les histoires de la philosophie, comme celle de François Chaffet, par exemple, il y a aussi tout un important chapitre là-dessus. Il y a Alain de Libera aussi, Alain de Libera, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et en ce moment, d'ailleurs, il y a une polémique. Parce qu'il y a un professeur d'histoire de l'École dans la supérieure de Lyon, qui a publié un livre qui fait scandale, un livre au seuil, Il s'appelle Aristote au Mont-Saint-Michel. C'est Guggenheim, l'auteur de ce livre. C'est Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines chrétiennes de l'Occident, et qui entend remettre complètement en question cette thèse de l'apport de la philosophie arabe, en disant qu'ils n'ont jamais rien apporté d'essentiel et que de toute façon, avec le Coran, ils ne pouvaient pas penser. Et donc, alors il a trouvé un obscur dominicain en Normandie. Alors, les critiques disent que, d'ailleurs, il a même probablement gêné les métiers de Mont-Saint-Michel, cet obscur bénédictin en question, dominicain, et qui aurait traduit Aristote. Alors, il a été, il y a eu des pétitions qui ont été signées par des historiens, par des philosophes, par l'école normale supérieure où tous les étudiants ont dit « pas en notre nom hein, », en gros. Et il est récupéré par des sites islamophobes, des sites d'extrême droite. Alors, en ce moment, il y a tout un... Si vous tapez Aristote au Mont-Saint-Michel sur Google, vous allez trouver toute la polémique. Il y a plein d'articles très, très intéressants. Il y a Souline qui fait un article là-dessus et qui renvoie des liens sur des articles de différentes personnes qui ont pris position dans cette polémique, justement. Mais justement, là, vous parlez des rapports de la foi et de la raison aujourd'hui. Là, il y a vraiment une polémique dans laquelle il y a un enjeu politique. D'ailleurs, ça renvoie aussi au discours du pape avec les racines chrétiennes de l'Europe. Ça renvoie aussi à tout le débat qu'il y a sur l'entrée ou non de la Turquie en Union européenne, parce que ça fait pas partie de notre histoire. Ils n'auraient pas une histoire européenne. Et ça consiste... C'est comme si on voulait dresser un mur autour de l'Europe où les idées ne... Enfin, comme si les idées n'avaient pas circulé, alors que notre pensée, elle est faite justement d'une circulation et d'apport permanent, de croisement permanent, etc. Si vous voulez, sur le site de l'UB, je pourrais mettre un petit peu ces références. Parce qu'Aristote au Mont-Saint-Michel, ça a été publié par Le Seuil. Hein. Et leur prof de l'ENS, publié au Seuil, tout de suite, ça donne une caution, une grande crédibilité, mais il a vraiment déclenché une tempête de consternation, en fait, de voir ces thèses.
Difficile à intervenir. Simplement, je me demandais, à travers mon expérience et le peu de théologie que j'ai fait, disons, en fréquentation de théologie à l'époque, à l'université, si, pour entrer dans le... Il y aurait une espèce de paradoxe entre raison et foi, et la théologie serait le, si vous voulez, le domaine dans lequel plus on en parle, plus on étudie, plus on construit une foi qui serait théologisante, on n'est pas en train de la détruire. C'est-à-dire, est-ce que la véritable foi, je vais faire un scandale, peut-être que je m'excuse auprès des croyants ici, moi je ne crois pas ne plus croire encore, hein. j'ai beaucoup cru à l'époque, mais je me demande si la véritable foi dépassait le charbonnier, en fait, comme on disait autrefois, et que si le discours... Non, je dis ça, je pense le contraire. Mais si le discours qu'on construit autour de la foi, de la croyance, de Dieu, après le temps voudra, c'est-à-dire toute la théologie, en fait, qui pour moi est une philosophie chrétienne, était une philosophie chrétienne, ne détruit pas les racines de la foi authentique. Voilà. Mais bon, c'est un paradoxe, c'est le discours.
Madame,
intervenir,
après je vais donner
le souci. Ah non, c'est simplement une question, ça n'a rien à voir avec ce que vient de faire. Je voudrais savoir si vous avez une idée pour laquelle Byzance n'a pas assuré la transmission des Grecs anciens. Et si la chrétienté ne se réduit pas un peu au catholicisme tel que vous l'avez présenté.
J'ai lu un petit peu des choses là-dessus, mais je ne sais pas si je pourrais répondre. Il y a quand même, avec justement, Byzance, ça nous met du côté justement, ça nous emmène vers les chrétiens du Moyen-Orient, du Proche-Orient, c'est-à-dire les chrétiens syriaques. Non ? Vous voyez, donc là, mes connaissances en histoire géo vont me manquer cruellement. Il faut que j'appelle un historien à la rescousse. Il y en a un là-haut. Mais non, je ne saurais pas bien répondre. Mais c'est dommage, j'ai lu des choses là-dessus ces derniers jours, mais ça ne revient pas du tout à la mémoire.
Parce qu'il y avait continuité de langue, donc déjà une facilité pour transmettre les textes. Et visiblement, christianisme a voulu effacer toute trace de ce qui était antérieur.
Après le schisme, en fait, avec les orthodoxes, même avant.
Moi, personnellement, je suis arménien d'origine. Et avant d'être chrétien, les arméniens sont les premiers chrétiens. Nous sommes chrétiens depuis 360 après Jésus-Christ. Avant, nous étions zoroastriens. Mais il n'y a aucune trace, sauf quelques emblèmes dans les églises, aucune trace, aucun écrit, aucune histoire qui se réfère à cette période-là.
À la période
zoroastrienne de la nation arménienne.
Justement, je ne sais pas plus grand-chose.
Alors là, je ne vous pose pas de questions.
Non, je ne pourrais pas répondre.
Pour rebondir, pour qu'on passe par un plan à autre chose, je crois qu'il y a une nécessité de reparler de Dieu. Pour faire un petit peu la différence entre la foi et ce que sont les croyances, qui peuvent être des croyances populaires, entre guillemets, et je mets vraiment rien de péjoratif derrière, mais je crois que la théologie a véritablement à reprendre la parole aujourd'hui pour qu'on sorte de toutes ces idées reçues qui sont à la limite de la superstition. Moi je suis protestante, donc c'est vrai que je suis dans une mouvance qui est malheureusement insuffisamment connue, qui est ce qu'on appelle la mouvance du protestantisme libéral, qui a démarré à la fin du 19e siècle, et également de par la fréquentation d'un groupe sur Nîmes, mais qui existe dans plein d'autres villes en France, puisque dans la mouvance du protestantisme libéral, vous avez une mouvance qui est un magazine qui s'appelle Évangile et Liberté, et dans lequel se retrouvent énormément de théologiens de tous bords pour justement sortir de la lecture littérale de la Bible, enfin regarder en face que c'est quelque chose qui a été écrit par des hommes, et à partir de là, redécouvrir qui est Dieu, arrêter de dire que Dieu est tout puissant, par exemple. Je crois qu'à partir du moment où on défait certaines croyances dont on est pétri, l'homme retrouve sa liberté. J'ai un petit peu de mal à me faire comprendre, peut-être. Mais je crois qu'il faut faire la différence entre la foi et les croyances qui sont quelquefois un peu trop proches des idées reçues, qui enferment l'homme dans l'attente d'une baguette magique qui viendrait intervenir dans le monde pour transformer le monde et transformer la vie. Il y a toute une théologie d'aujourd'hui qui dit que le monde est entre les mains des hommes et qu'il existe peut-être quelque part une inspiration, mais que personne n'est tout puissant, personne ne va faire quoi que ce soit. Donc je crois qu'à tout prix, il faut que la théologie reprenne la parole pour qu'il y ait une discussion, et qu'on retombe un petit peu sur terre, mais différemment. Je m'exprime mal, je suis désolée. Et juste par rapport à ça, il y a une théologie que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la théologie du process. Voilà, qui partirait du principe qu'en fait, la création n'est pas terminée. La création, c'est un processus, et que l'homme a à intervenir dans le processus de la création du monde pour faire advenir plus tard, en étant en train par toutes les personnes qui vont se mettre à l'œuvre dans le monde, de faire advenir le monde tel qu'il devra être. Il n'est pas fini, il n'a pas été créé une fois pour toutes, mais il est en création. Voilà, c'est la théologie du process. Si vous avez l'occasion d'aller sur un site qui s'appelle Théolibre, je pense que vous aurez beaucoup de choses très très intéressantes dedans.
Juste avant de garder Michel Nodin, à propos de Byzance, juste, enfin, je pense que ça n'appelle, on n'attend pas tellement de réponse. Je ne chercherai pas à répondre. La seule chose, c'est que, je ne suis pas du tout du point de vue de la foi, ni de la théologie, ni de quoi que ce soit. Par contre, je n'ai pas du tout l'intention d'exclure la théologie par principe. Je veux dire, il me semble que la seule chose qui puisse être intéressante, c'est d'ouvrir la possibilité d'un dialogue. Je pense que la théologie, elle ne bloque pas beaucoup habituellement. Ça pose problème. Mais je veux dire, par principe, il n'est pas question de dire non, plus de théologie, on va savoir la tête. D'abord parce qu'on a montré que, y compris dans notre histoire, la théologie a aussi participé à l'élaboration aussi même d'une philosophie, etc. Mais il y a quand même une manière justement là de dire les choses qui me semble être ne pas laisser les portes ouvertes, justement pour un dialogue, dans l'affirmation. Et c'est pour ça que je dis que je ne répondrai pas, parce que ça n'appelle pas de réponse, justement.
C'était juste pour faire la différence entre les croyances proches de la superstition et la foi. C'est très différent.
Oui, mais moi, j'ai tendance à considérer la foi comme une superstition.
Alors, c'est quoi, bien sûr.
Mais en tout cas, la possibilité pour la foi de se penser éventuellement comme telle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui interdit celui qui croit de se demander s'il n'est peut-être pas dans la superstition ? L'interrogation philosophique, elle consiste aussi à venir se déranger sur ses propres positions. Michel ?
Oui, non, simplement une précision à propos des chrétiens d'Orient, pour du Byzance plutôt. Byzance, il y a eu un rôle assez paradoxal. D'une part, il y a eu une extension du christianisme vers la Russie, etc., en Syrie, méthode et compagnie. L'Arménie, elle s'est conservée parce qu'elle était justement protégée par les montagnes. Et sinon, il y avait une telle, à partir du 5e siècle, et une telle lutte contre les soi-disant hérétiques, c'est-à-dire les chrétiens qui ne pensaient pas tout à fait dans la ligne exacte de l'Empire, que justement, lorsqu'il y a eu cette lutte contre les minorités chrétiennes, beaucoup ont été sauvés par l'islam, justement. Et c'était le grand progrès de l'islam, justement, en Syrie et en Égypte en particulier, a été dû justement au ralliement de nombreux chrétiens et des chrétiens qui ont trouvé dans l'islam un refuge contre les persécutions, notamment de la politique impériale de l'Empire byzantin. Alors donc, c'est un rôle un peu paradoxal, le rôle de l'Empire byzantin, finalement. Et puis un autre rôle des Byzantins, c'est justement lorsque les Turcs ont pris Constantinople, alors à ce moment-là, beaucoup se sont repliés en Italie, c'est par là qu'est arrivé aussi l'un des éléments non négligeables de l'indépendance en Europe. Bon, c'est deux petites précisions que je faisais comme ça.
Le problème numéro un qui me traverse, qui m'interroge fortement, il a été formulé d'une manière très claire par M. Gorbatchev, que le monde a entendu parler de lui, et il dit, mon problème à moi, Gorbatchev, il est celui de la sauvegarde de l'humanité et des autres sont secondaires. Je suis d'accord avec lui, sur ce point-là. Deuxième chose, le christianisme est la religion de la sortie de comment dire, je perds la mémoire.
la religion. Le christianisme et la religion, la sortie de la religion, c'est Marcel Gauchet qui l'a dit. Et troisième chose, je termine par là, Edgar Morin, que je lis assez souvent, est un monsieur qui a dit « Il faudrait que tous les gens qui se présentent comme des intellectuels, des gens qui réfléchissent, se mettent d'accord pour dire de manière claire en quoi consiste le problème philosophique de la connaissance. » Et deuxièmement, il dit que l'intelligence humaine a été et sera toujours dans l'incapacité de percer le mystère. Et tout ce qui ne respecte pas le sens du mystère est frappé de suspicion. Donc personnellement, je suis très désireux de faire en sorte que, quand les gens parlent, que je sente chez eux que le mystère passe avant la certitude. Voilà. Le sens du mystère. Quelqu'un dit, il y a de l'inconnu, il n'y a pas d'inconnaissable. Je ne suis pas d'accord, je crois qu'il y aura toujours de l'inconnaissable. Je peux me tromper, mais je crois.
Par rapport à ce sur quoi vous terminez, la question c'est, je ne sais pas si j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière, peut-être aussi de faire la différence entre, est-ce que l'alternative elle est entre la foi et la connaissance? Ou est-ce qu'il peut y avoir un exercice de la pensée qui ne soit pas envie de connaître, mais qui soit questionnement? Et ça, moi, si je n'avais pas. Il me semble que j'ai parlé d'Anna Arendt la semaine dernière, qui fait justement qui fait cette distinction, donc, qui n'est pas. Qu'elle n'invente pas, puisqu'elle l'a fait remonter à Kant, cette distinction, entre la connaissance et la pensée. Ce qui signifie justement que. Il y a de l'inconnaissable, mais qu'est-ce qui nous interdit de penser, c'est-à-dire de questionner ce qui nous échappe. Donc, soit on dit il y a des choses qui nous échappent, donc c'est le mystère, on renonce à les voir de ce côté-là, mais ça conduit aussi vers une forme, ça peut aussi conduire vers une forme de positivisme aussi, c'est-à-dire bon, le seul champ dans lequel nous ayons une action possible, c'est celui de la connaissance, c'est le monde scientifique et technique, et puis on garde la part de mystère, et d'ailleurs il y a aussi une forme justement de pensée positiviste qui s'accommode très très bien de la croyance en un Dieu. On va quand même voter le monde scientifico-technico-industriel, on fait les affaires et tout, et puis on n'oublie pas de prier Dieu parce qu'il y a une part de mystère, et on ne s'en préoccupe pas. Alors qu'il me semble que justement, si effectivement il y a de l'inconnaissable, si effectivement il y a de l'indicible, s'il y a est-ce que justement l'intérêt, ça n'est pas de venir poser des questions dans cette direction? Et que à ce moment-là, c'est peut-être aussi, bon, c'est d'ailleurs aussi ce que fait la littérature, la poésie, mais il y a d'autres types de discours aussi, justement, qui font signe vert quelque chose qui nous concerne au plus haut point. Parce que moi, justement, il me semble que la part de mystère, c'est celle que l'homme lui-même secrète. Non, c'est-à-dire, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a, on a un discours rationnel, effectivement, qui maîtrise le sens, mais qui produit un débord, qui produit finalement un sens qu'on ne maîtrise pas, ou quelque chose en reste. Hein, on ne maîtrise pas complètement ce qu'on pense, il y a des tissus de signification qui se tissent entre finalement les subjectivités, hein, et il y a là quelque chose qui finalement nous appartient à tous et n'appartient à personne, et qui nous traverse et qui nous constitue. Et moi je pense que la part du mystère, c'est plutôt de chercher du côté de ce qui en l'homme passe l'homme lui-même. Je reprends aussi les termes de saint Augustin quand il parle de la religion. Et justement, donc moi j'aurais pas du tout tendance à dire là c'est le secret, c'est interdit, on ne va pas, ça serait prétentieux de vouloir en parler. Non, mais
Oui. Moi, c'est les intellectuels que vous avez parlé, du Moyen-Orient, à Bagdad et à Bassora, et qui avaient écrit 51 volumes. À l'époque, disons, quand on pense à l'encyclopédie universaliste aujourd'hui, c'est un peu tchat par rapport. Et après, vous avez dit l'âge d'or, effectivement, en Espagne, avec où les juifs, arabes et chrétiens s'entendaient en fait, travaillant ensemble. Alors ça m'a fait réfléchir à un moment, hein, je disais, oh, dis-donc quand même, quelle période, l'âge d'or. Et moi j'ai pensé à l'intervention effectivement de ce chrétien qui a lieu toujours, puisque c'est ce Bush, M. Bush, au moment de son intervention en Irak. Voilà. Et l'intervention en Irak, c'est pas non plus par rapport à ce qui tout s'est dit, mais aussi pour étouffer par rapport à ce pays qui était un pays aussi très important, au moins dans la laïcité. Il y avait eu une histoire en Irak, très importante. Et vous avez cité. Et ça m'a fait chaud au cœur. Pourquoi ça m'a fait chaud? Moi, je suis né effectivement en Normandie, dans une famille chrétienne. Mon grand-père chantait au chœur. Ma mère était l'aînée de 13 enfants, la misère. J'ai connu effectivement, la religion chrétienne, moi, aller à l'église, etc. Et au lieu d'aller à l'école, je portais la croix au moment des enterrements, vous voyez. Et croyez-moi que ça m'a marqué énormément. Et je suis venu justement par toute mon histoire qui fait que, heureusement que je suis venu sur les déclines et que j'ai beaucoup voyagé, et aussi, non seulement en Moyen-Orient, puisque là où il y avait le pétrole, et en Algérie, et à Sidi Saoud, et c'est la vie qui m'a fait venir rater. Voilà ce que je veux dire.
Je me fais une remarque linguistique. Le verbe « je crois » est un verbe intransitif uniquement dans le domaine religieux, alors que c'est un verbe transitif dans le domaine que je crois en mes frères, etc. Deuxième remarque, tu as évoqué, Marjolaine, la littérature au XVIIe siècle et les libertins. Un certain nombre d'écrivains libertins, Gassendi, Cyrano de Bergerac. Et puis il y a une pièce qui est révélatrice de ce que tu as formulé dans ton exposé au XVIIe siècle, c'est dans le Tristan de Pierre, le Molière, le Don Juan, si vous préférez. Et Don Juan, qu'on présente à tort comme un coureur de jupons, est en fait un libertin. Un libertin, puisqu'il conteste l'existence de Dieu, et il y a une anecdote assez révélatrice, puisqu'il rentre d'une de ses multiples randonnées, celui de Sgalarel, et il rencontre un pauvre qui lui fait le monde. Et Don Juan demande au pauvre, je te donne la pièce si tu jures. Et le pauvre, malgré son état dément complet, refuse de jurer. Ulcéré, il lui donne au bout d'un certain temps la pièce. Parce qu'à la demande à Don Juan, il dit, mais vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez en rien. Donc, si, je crois en 2 et 2 qui font 4, et en 4 et 4 qui font 8. Déjà, donc les vérités mathématiques s'affronter. Et puis, sous forme de boutade, puisque tu as écrit foi et raison, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un beau pari? Ne vaut-il pas mieux avoir foi dans la raison que de prétendre avoir raison dans la foi?
La foi dans la raison, elle peut être dangereuse aussi. Hein. Enfin, tout prend, moi, c'est dans la raison que j'ai foi.
Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir, mesdames, messieurs. Que pensez-vous de cette pensée que l'on prête au Bouddha? Ne croyez pas sur la foi de vieux manuscrits. Ne croyez pas une chose parce que votre peuple y croit ou parce qu'on vous l'a toujours dit. En toute chose, appliquez votre raison.
Je pense que c'est mon raison. Le terme de raison dans votre citation, ça m'intéresserait beaucoup de savoir à quoi il correspond dans la langue où ça a été écrit. Ceci dit, moi je ne suis pas une spécialiste du bouddhisme, vous n'entendez pas.
C'est pas le cerveau, c'est les oreilles.
Oui, le bouddhisme, c'est quand même une religion très très particulière, hein, qui est à la limite plus une éthique qu'une religion au sens où nous l'entendons. Donc, il y a aussi une grande proximité entre la sagesse du bouddhisme et puis, par exemple, les écoles de sagesse de l'Antiquité, par exemple le stoïcisme. Donc là, il y a sûrement des choses à aller chercher tout à fait intéressantes. Mais effectivement, le bouddhisme ne demande pas la foi comme le demandent les religions monothéistes, effectivement. Mais bon, je ne pourrais pas non plus développer énormément sur la question.
Merci.
Alors, je suis là à regarder le monde parce que j'ai promis qu'on aurait vidé la salle à 9h. Donc, à moins qu'il y ait une question urgente, je crois qu'on peut peut-être s'arrêter là. Et puis on donne rendez-vous la semaine prochaine à Pablo Neruda.
Les programmes, je vous dis en marque, 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 je vous dis en marque.